Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous. Ce soir à la une, le mystère d'Agde dans l'Hérault. Une retraitée de 77 ans a été retrouvée décapitée chez elle dans cette station balnéaire. C'est son fils qui a donné l'alerte. Le point sur l'enquête dans un instant, nous nous rendrons sur place. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le remède aura été douloureux. Fermeture de magasins, suppression de postes, mais l'enseigne de prêt-à-porter Célio peut souffler. Information RTL, la justice lève ce soir la procédure de sauvegarde. Dans ce journal aussi, but à Poissy, Julien, signé Emmanuel Macron pour une journée entre sport et communication. La Norvège endeuillée, 5 morts dans une attaque commise hier par un homme suspecté de radicalisation par le passé. Et puis, le regard de Julien Alaphilippe sur le parcours vitaminé du Tour de France, il a été dévoilé aujourd'hui.
Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, sera avec nous à 19h.
Les courses dans le Quintet Plus à Longchamp, il fallait jouer le 8, le 5, le 9, le 12 et le 7.
À suivre dans l'immédiat, l'invité de 18h15 sera Randall Schwerdorfer. L'avocat de Jonathan Daval sort un livre, Je voulais qu'elle se taise. Il a choisi RTL pour raconter sa version du dossier. Conflit, emprise, relations toxiques, 4 ans après le meurtre d'Alexia. Dans une demi-heure, 18h30, les dessous de l'actu, des terrains de foot, de basket, des dojos dans des immeubles, des piscines mobiles. 200 millions d'euros pour le sport à Marseille et en Seine-Saint-Denis. À 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signy et la Dream Team. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on vous plonge dans la tête des footballeurs. Derrière les paillettes et les millions, la réalité d'une psychologie parfois fragile. Au menu également, Molière malmenée et une compète d'escrime à l'EHPAD.
À 19h15, du débat autour d'Éric Brunet, on va refaire le monde et notamment les propos de Philippe Poutou, le candidat anticapitaliste pour qui la police tue. Et puis des points réguliers sur le temps avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Encore une belle journée globalement demain, mais plus nuageux au nord.
Le détail dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc d'abord l'horreur, l'effroi à Agde dans l'Hérault où une septuagénaire a été retrouvée décapitée dans sa maison.
Le corps de cette ancienne institutrice de 77 ans a été découvert hier après que son fils a donné l'alerte. Patrick Hisson, vous êtes à Agde pour RTL et vous avez rencontré des voisins de la victime sous le choc.
Oui, ce quartier pavillonnaire plutôt cossu à deux pas du fleuve l'Hérault vit un vrai cauchemar depuis ce matin. Francis habite à 20 mètres du domicile de la victime qu'il avait croisé mardi pour la dernière fois.
C'était une personne très très discrète, elle était très renfermée, on la voyait presque pas sortir, mais c'était quelqu'un de très très gentil. Sans aller la torturer comme ça, elle allait couper une tête, mais je sais pas si elle va s'en remettre dans le quartier, mais c'est très dur. Alors, c'est l'angoisse, c'est normal. Hein.
Un peu plus loin, Monique, comme beaucoup d'habitants du quartier, est elle aussi retraitée et tout aussi choquée.
Bah, ça fait 30 ans que j'habite ici, moi. Je la connaissais comme une voisine. Enfin, je sais pas pourquoi on lui a fait ça. On lui a coupé la tête. C'est affreux, il devait y avoir une raison pour ça.
Et c'est évidemment ce que cherchent à comprendre les enquêteurs. Toutes les pistes sont explorées. C'est ainsi que des vérifications sont faites dans l'environnement familial où les relations, selon certains témoins, n'étaient pas au beau fixe. Il est aussi question d'un homme qui aurait été filmé par les caméras du quartier. Enfin, plusieurs voisins ont aussi évoqué la présence inhabituelle d'une moto le soir du drame.
Patrick, ils sont à Agde pour RTL. C'est une sorte de renaissance dans le prêt-à-porter, secteur considérablement fragilisé par la crise sanitaire. RTL vous le révèle ce soir, Célio se libère de la tutelle de la justice.
Avec 100 millions de chiffre d'affaires perdus en 2020, le groupe avait bénéficié d'une procédure de sauvegarde, mesure qui vient d'être levée par le tribunal de commerce de Bobigny. Nerissa Emani, la justice considère que Célio, ça y est, désormais suffisamment sain pour voler de ses propres ailes.
Oui, car l'entreprise présente un chiffre d'affaires convaincant, 510 millions d'euros cette année contre 450 l'an passé, sans être rachetée avec les mêmes actionnaires historiques. En 6 mois, la marque française a totalement repensé ses collections, plus accessibles, plus modernes, et misé sur des partenariats avec des youtubeurs bien connus. À l'origine de ces changements, Johannes Soanen, le nouveau président de Célio.
Globalement, c'est effectivement une nouvelle stratégie produit. On a des collections plus larges, nous avons baissé nos prix et on a fait réémerger ces vêtements qui sont plus basiques, qui correspondent à ce que portent les hommes aujourd'hui post-Covid, où les codes du vestiaire masculin sont totalement libérés. On vient travailler en jean, en t-shirt, etc. Et ça, c'est l'ADN de Célio. C'est aussi une stratégie de distribution avec des magasins plus forts. C'est des efforts qui nous ont permis justement de renouer la confiance avec nos partenaires financiers.
Mais cette sortie du plan de sauvegarde ne s'est pas faite sans sacrifice. 102 magasins ont fermé leurs portes, près d'un quart des boutiques et 383 postes ont été supprimés l'an dernier.
Les précisions de Nerissa Emani pour RTL. Le gouvernement prend acte après la décision de la justice. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris a ordonné à l'État de réparer ses engagements climatiques non tenus. C'est la suite de l'affaire du siècle, soutenue dans une pétition par plus de 2 millions de personnes. Toutefois, aucune nouvelle mesure ne sera prise, le gouvernement estimant que tout a déjà été mis en œuvre pour respecter ses engagements.
Direction à présent Poissy, dans les Yvelines, où Emmanuel Macron a chaussé les crampons.
Pour un match de gala avec le Variété Club de France face à une équipe de soignants, William Galibert, vous êtes au bord du terrain pour RTL et le chef de l'État a donc marqué.
Oui, il a déjà marqué, le président, sur un pénalty que ses partenaires lui ont généreusement laissé tirer. Une frappe pas superbement placée, mais ça a suffi à Emmanuel Macron. Maillot bleu sorti du short, numéro 3 dans le dos. Foulée bondissante pendant le premier quart d'heure et bizarrement un petit peu moins bondissante depuis. Alors il est positionné à la récupération, au centre du jeu, mais quand même un peu à droite. Et si ça vous inspire quelques calembours, je vous laisse les faire. Pires, Carambeu, Desailly, Alain Giresse, impeccable malgré ses 69 ans. Voilà quelques-uns de ses partenaires du soir. Ça joue au rythme foot-loisir du dimanche matin. L'équipe présidentielle mène 3-1 contre une sélection de soignants de l'hôpital de Poissy. Alors oui, ça fleure bon la communication bien léchée pour le chef de l'État avec de jolies images. Mais à la fin du match, c'est aussi un joli chèque qui sera remis en faveur de l'opération Pièce Jaune.
William Galibert à Poissy pour RTL. Comme Fabien Roussel l'annonçait lundi sur RTL, les députés communistes vont déposer demain à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour rendre inéligibles les personnes coupables du délit de provocation à la haine raciale. Le but est que le gouvernement prenne position sur le sujet avant la prochaine présidentielle.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL. Avec des arrestations en série pour détention d'images pédopornographiques. 49 personnes interpellées dans toute la France. C'est une info RTL. Le détail juste après ça, tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et RTL Soir continue, la suite de votre journal, 18h08 avec cette info RTL donc que nous vous révélons. Un vaste coup de filet à travers toute la France, 49 personnes arrêtées.
Arrestation pour détention d'images pédopornographiques, Alice Moreno.
Oui, des dizaines de suspects arrêtés en début de semaine sur tout le territoire, tous soupçonnés de détenir du contenu pédopornographique. L'opération a été menée par le groupe mineur de l'Office central de répression contre les violences aux personnes. Parmi les individus interpellés, un instituteur de 36 ans qui travaillait à Bédarieux dans l'Hérault, également conseiller municipal de cette commune. Selon les enquêteurs, les investigations ont montré que cet homme avait détenu, téléchargé, mis à disposition des images et des vidéos à caractère pédopornographique au cours de sa garde à vue. Après s'en être défendu, il a fini par reconnaître avoir une attirance sexuelle à l'égard des garçons âgés de 16 à 18 ans et avoir téléchargé quelques images mettant en scène des mineurs. Il a été placé en détention provisoire.
Ouais, précision d'Alice Moreno pour RTL. En Norvège, la piste terroriste évoquée par les services de sécurité après une attaque hier qui a fait 5 morts et 2 blessés à Kongsberg dans le sud-est du pays. L'auteur présumé qui a tiré des flèches sur ses victimes a été rapidement arrêté, Bénédicte Tassard.
Oui, ce Danois de 37 ans était installé en Norvège dans cette petite ville de 22 500 habitants, converti à l'islam. Il était déjà sous le radar de la police pour des soupçons de radicalisation. Il avait menacé de tuer sa famille, tout de noir vêtu. L'auteur présumé a été interpellé hier soir dans le centre-ville. Une demi-heure après le début des faits, il a utilisé un arc, des flèches, mais aussi d'autres armes non précisées par les autorités. Il a abattu 4 femmes, un homme, tous âgés entre 50 et 70 ans, notamment devant un supermarché. Les passants ont essayé d'éviter les flèches en se cachant derrière les voitures. Le suspect s'est rendu après un coup de semonce tiré par les policiers. Son avocat indique ce soir qu'il coopère avec les forces de l'ordre. Hasard des faits, c'est aujourd'hui en Norvège qu'est introduit le nouveau gouvernement avec parmi ses membres deux ministres rescapés il y a 10 ans de la tuerie du Toya quand Anders Breivik s'en était pris à la jeunesse travaillée. djihadistes réunis sur une île, laissant derrière lui 69 cadavres.
La précision signée Bénédicte Tassard pour RTL.
Les oreilles de quelques milliardaires ont sifflé cet après-midi. Lancés dans la course au tourisme spatial, les patrons d'Amazon, de Tesla, de Virgin ont été taclés par le prince William.
Tacle indirect, mais à moins de 3 semaines de la COP26 sur le climat à Glasgow, le petit-fils d'Elisabeth II a tenu à remettre un peu d'ordre dans les priorités.
Je veux que les choses dont j'ai profité, la vie au grand air, la nature, l'environnement, je veux que tout ça soit encore là pour mes enfants. Et pas seulement mes enfants, mais aussi les enfants de tout le monde. Si on ne fait pas attention, on va leur voler leur avenir. La course à l'espace, c'est à la mode. On voit tout le monde se lancer là-dedans, dans le tourisme spatial. Certains des plus grands cerveaux le font. Mais on devrait avant tout essayer de sauver notre planète au lieu de trouver un autre lieu.
Dans les pas de son père, hein, donc défenseur de l'environnement, le prince William interrogé ce jeudi sur la BBC. Pas de répit pour les braves et au moins une difficulté par jour pour les coureurs du prochain Tour de France, dont le parcours a été présenté ce matin avec déjà quelques étapes très attendues.
Oui, on retient entre autres certains secteurs pavés de Paris-Roubaix, la deuxième plus haute arrivée de l'histoire du Tour, Col du Granon dans les Alpes, 2413 mètres d'altitude, un contre-la-montre à Rocamadour dans le Lot la veille de l'arrivée. Bref, terrain de jeu excitant pour le champion du monde, Julien Alaphilippe.
C'est un très beau tracé, une première semaine qui s'annonce palpitante avec voilà, différents terrains d'expression, contre-la-montre, étape de bordure, des pavés, arrivée puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de faire des recos et d'étapes et de voir un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour ce tour. Avec le maillot champion du monde, c'est un peu difficile de ne pas s'aligner sur le tour, donc j'essaie d'en profiter au maximum. C'est un parcours difficile, ça c'est sûr et certain. C'est un premier aperçu, mais ouais, il y a vraiment du costaud qui nous attend.
Julien Alaphilippe au micro RTL de Nicolas Georgerot.
On reviendra sur ce tracé, mais aussi sur la polémique, sur la différence entre les primes pour les hommes et pour les femmes, parce qu'il y a aussi un Tour de France féminin cette année avec le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, tout à l'heure à 19h.
Elle avait semé la zizanie sur la précédente édition, provoquant une chute massive dans le peloton dès la première arrivée. La jeune femme qui avait brandi une pancarte a comparu aujourd'hui devant le tribunal de Brest. 4 mois de prison avec sursis ont été requis. Le jugement sera rendu le 9 décembre prochain.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec une nouvelle venue dans la famille RTL, elle s'appelle Valentine. Elle est née ce matin et c'est la fille d'Ophélie Meunier à qui l'on souhaite un grand bonheur. Désormais à 4 aux côtés de Joseph et Mathieu.
On leur souhaite tout le meilleur, plein de belles choses et on a hâte aussi de retrouver Ophélie à la tête du journal inattendu dans quelques semaines. Mais qu'elle profite pour l'instant, c'est bien le plus important effectivement. Merci beaucoup Marion et à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, pour demain, qu'est-ce que ça donne?
Encore de bonnes nouvelles parce qu'on a globalement du beau temps demain, sauf sur l'extrême nord, Julien, où ça restera couvert toute la journée avec quelques gouttes. Tout de même plus nuageux entre le Nord-Bretagne, les frontières du Nord le matin en allant vers la région parisienne l'après-midi avec quelques rares averses possibles. Et puis ailleurs, hein, du beau temps après dissipation des grisailles matinales sous un ciel parfois voilé. Ce sera plus chargé en matinée sur le Languedoc. Vous savez ce qu'on appelle les entrées maritimes. Et ces entrées maritimes vont se décaler, ces nuages vont se décaler vers la région PACA en journée. L'ouest sera plus ensoleillé. Donc globalement, du beau temps. Plus nuageux au nord. Les températures, elles seront encore froides le matin avec des gelées blanches entre le centre et le nord-est. Et les maximales, toujours de saison, 16 degrés à Strasbourg, à 22 à Toulouse, 16 à Lille, 18 à Lyon, Paris et Caen, 20 à Bordeaux et Biarritz et 21 à Toulon.
Merci Peggy. Une petite pause et ensuite RTL va revenir sur ce féminicide qui avait défrayé la chronique. Le meurtre d'Alexia Daval, son mari Jonathan la pleurait. Il était en fait le coupable, l'avocat du tueur. Randall Schwarzdorfer sera notre invité dans un instant. Il sort un livre, Je voulais qu'elle se taise, et il a choisi RTL pour raconter sa version du fait divers. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, avec Julien Cellier. Sucré. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, 18h, 18 minutes et ce soir RTL se replonge dans l'affaire Alexia Daval. Cette jeune femme retrouvée morte il y a 4 ans à Grès, en Haute-Saône, dossier aux multiples rebondissements. Le mari éploré était en fait le coupable. Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison l'an passé. Je voulais qu'elle se taise, a-t-il alors expliqué devant le tribunal. Je voulais qu'elle se taise. C'est le titre de votre livre, Randall Schwarzdorfer. Bonsoir.
Bonsoir, M. Cellier.
Vous êtes l'avocat du coupable. Ce livre sort aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Vous avez choisi RTL pour en parler. En 238 pages, vous racontez...
C'est les éditions Hugo Doc.
Hugo Doc, qu'est-ce que j'ai dit?
Robert Laffont.
Ben alors là,
c'est pas
toutes
grave,
mes excuses.
Vous n'aurez
Hugo
pas de
Doc,
procès.
Évidemment, je n'aurai pas de procès. Vous me voici rassuré. Vous êtes donc l'avocat de Jonathan Daval. Et en 238 pages, vous racontez, je cite... la tragédie amoureuse du couple, une relation toxique, l'emprise aussi de la victime sur son mari, ce qui peut faire débat, on va y revenir. Avant d'échanger ensemble, et pour que nos auditeurs aient bien la chronologie des faits en tête, on va faire appel à la brigade RTL et à Dimitri Ramelot, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Qui a suivi ce féminicide, lui, sur le terrain, correspondant de RTL dans la région. Le point de départ, Dimitri, c'est le samedi 28 octobre 2017.
Oui, premier jour des vacances de la Toussaint. Jonathan Daval, 33 ans, se rend vers midi à la gendarmerie. Il explique que sa femme Alexia, avec laquelle il vit dans un pavillon de grès, a disparu, qu'elle n'est pas rentrée de son jogging. D'importants moyens sont déployés. Homme au sol, drone, plongeur, le corps de la banquière est retrouvé 48 heures plus tard par des militaires lors d'une battue dans un bois à quelques kilomètres. Le cadavre est en partie calciné, aucune piste n'est alors écartée.
Quelques jours plus tard, Dimitri, alors que l'enquête se poursuit, une marche blanche a lieu à Grès pour rendre hommage à Alexia.
Oui, 10 000 personnes, deux fois la population de Grès qui en silence marche au bord de la Saône jusqu'à une grande halle où un podium a été dressé. Jonathan Daval pleure à chaudes larmes, prend la parole pour évoquer sa femme disparue, seule fois avant le procès où l'on entendra le son de sa voix. L'informaticien, déjà très proche de ses beaux-parents, passe ses journées avec eux, fête Noël avec eux, silence total des enquêteurs jusqu'à la fin janvier, trois mois alors qu'Alexia a disparu.
Et Dimitri, ce 31 janvier 2018, les gendarmes mènent une perquisition dans la maison du couple.
Oui, et Jonathan Daval est placé en garde à vue avant d'être incarcéré. Il est confronté à des éléments matériels et à un témoignage important. Il plaide l'accident, la bagarre qui a mal tourné, change de version de multiples fois, se rétracte avant finalement de craquer dans le bureau du juge d'instruction lors d'une confrontation avec la maman d'Alexia qui lui présente une photo de leur chat. Oui, il a tué Alexia. Les aveux ne seront complets qu'un peu plus tard lors d'une reconstitution.
Et le procès s'est tenu en novembre 2020.
Oui, une semaine de procès aux assises. Jonathan Daval est alors reconnu coupable du meurtre de sa femme Alexia. Il écope de 25 ans de réclusion. Personne ne fait appel de la décision qui est donc définitive.
Merci Dimitri Ramelot. Randall Schwarzdorfer, je reviens vers vous. Vous, l'avocat de Jonathan Daval, vous sortez donc aujourd'hui ce livre « Je voulais qu'elle se taise ». Ce sont les mots de Jonathan Daval au tribunal. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi à ce moment-là, Jonathan Daval passe à l'acte? C'est vrai que depuis le procès, on cherche encore une réponse.
Alors on l'explique, hein, avec mon co-auteur Fred Gilbert, on explique parfaitement les conditions du passage à l'acte, qui sont très lisibles, qui ont été expliquées aussi par l'expert psychiatre Canterino, où en réalité, Jonathan Daval, c'est des mois et des mois et des mois de frustration, des mois de silence, des mois où il supporte des réflexions, des remarques, des comportements qui deviennent de plus en plus compliqués à gérer, et puis un jour il y a une explication. Une explication qui est l'explication de trop. Et effectivement, Jonathan Daval, à ce moment-là, c'est ce que dira l'expert Canterino, va exploser. Littéralement explosé, lui qui n'avait jamais été violent, hein. Il n'y a jamais eu de violence dans ce couple, en tout cas Jonathan Daval n'avait jamais commis la moindre violence, qu'elle soit physique ou verbale sur Alexia, ça c'est une vérité du dossier. Ce jour-là, c'est une ultra-violence qui va se déchaîner. Alors l'expert Canterino avait expliqué que ça, c'est très révélateur d'une rage narcissique, c'est-à-dire qu'à un moment, celui qui est faible, celui qui ne dit rien, celui qui est transparent, eh bien va se remplir de violence parce qu'il n'a pas les mots, parce qu'il n'a pas les moyens de s'imposer, et il s'impose par la violence.
Vous racontez une relation vraiment de couple toxique, compliquée avec Alexia Daval, notamment qui pose des interdits à son mari.
Elle était devenue. Elle était devenue, c'est un couple qui évolue, hein. Les choses ne sont pas figées, ils ont été très heureux, Alexia a beaucoup évolué, Jonathan beaucoup moins, voire très peu, et effectivement à un moment, Jonathan n'était plus à la hauteur des attentes d'Alexia.
Vous divulguez d'ailleurs des échanges de SMS entre Alexia et Jonathan.
Existent, hein.
Mon mari ne me désire pas, je lui fais peur, écrit Alexia à Jonathan quelques jours avant le meurtre, et notamment les reproches sur les défaillances sexuelles de Jonathan semblent important lorsqu'on cherche à comprendre la relation de couple.
C'est constamment des reproches. Tous ces échanges, ce sont des reproches et ce sont des reproches qui sont parfois extrêmement dévalorisants pour Jonathan. Dans ce livre, l'exercice est aussi de montrer le sexisme judiciaire qu'il existe aujourd'hui et qui est rentré dans les cours d'assises. C'est-à-dire que, imaginons que ce ne soit pas Alexia qui envoie ses messages, mais que ce soit Jonathan qui envoie ses messages à Alexia. Qu'est-ce qu'on dirait? Comment on les analyserait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'interdit de faire cet exercice au nom d'une certaine doxa qui fait qu'on ne peut plus parler de la victime, qu'on ne peut plus parler donc du couple, Et donc c'est très difficile de défendre aux assises une personne accusée alors que la dynamique criminelle, c'est le couple. Et donc effectivement, on décrit des comportements qui sont extrêmement toxiques, notamment de la part d'Alexia qui va jusqu'à compter, par exemple, les aliments que va manger Jonathan, qui va jusqu'à lui interdire d'aller chez sa mère. Que dirait-on d'un homme qui a ce comportement ?
Le procureur de la République qui a mené l'enquête en 2017, lui décrit au contraire un Jonathan Daval truqueur. Il s'est exprimé en exclusivité sur RTL la semaine passée, je vous propose de le réécouter.
Bien sûr.
Il est manipulateur. Les experts, effectivement, vont noter ce caractère de dangerosité. Dangerosité hein, qui résulte de la façon de tuer. Une strangulation, c'est-à-dire la volonté de donner la mort qui dure près de 5 minutes. Donc c'est extrêmement long et c'est une agonie épouvantable pour la victime. Et puis tout ce qui est manipulation, le mensonge, la marche blanche, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement inquiétants par rapport à une personnalité criminelle.
On a l'impression que vous ne parlez pas du même Jonathan Daval. Vous écrivez que c'est un homme touchant à part et le procureur, lui, parle d'un homme manipulateur.
Procureur, c'est l'accusation. Le procureur avait requis perpétuité. Perpétuité n'a pas été prononcée. C'est ce qu'il avait décrit dans son réquisitoire. La cour d'assises n'a pas retenu cela. Sinon, elle aurait effectivement prononcé la peine de perpétuité. Donc, moi, simplement, effectivement, au travers de ce livre, j'essaye de redonner une image, à mon sens, un peu plus juste de qui a été Jonathan Daval. Plus éloignée, moins manichéenne de la présentation qui en a été faite au travers de certains médias. Et en reprenant à mon compte, notamment les travaux de certaines expertises, et notamment de l'expertise psychiatrique de Canterino. Donc c'est pas Randall Schwerdorfer et son avis sur Jonathan Daval qu'il défend, c'est au-delà de ça. Et après mon analyse, moi je suis désolé, les SMS, je ne les invente pas. Le fait qu'Alexia, et c'est un de ses amis très proches, l'a dit, pouvait insulter publiquement Jonathan devant même ses amis et que celui-ci ne répondait pas, je ne l'invente pas. J'essaye simplement d'inverser un peu le prisme de ce qui a été fait au départ. On a refusé effectivement à la défense de pouvoir expliquer les conditions de passage à l'acte de Jonathan. On a pu en cour d'assises, notamment grâce à la qualité du président de la cour d'assises, mais ça a été un travail très difficile.
Revenons sur ces mois de mensonges où Jonathan pleure sa femme devant les caméras. À quel moment, vous, l'avocat, vous avez compris qu'il mentait ?
Moi, j'ai compris qu'il mentait pendant la garde à vue, au début de la garde à vue. Vers 11h30 du matin, je sais que Jonathan ment.
Pourquoi ?
Parce que les éléments que je lis dans la presse, dès le premier jour de garde à vue, les éléments de preuve qui nous sont opposés et qu'on découvre dans la presse sont vraiment des éléments significatifs et il ne peut avoir aucune explication rationnelle sur ces éléments de preuve. Donc mon a priori, mon préjugé d'homme était de penser que il était innocent. Mon analyse de professionnel à 11h30 du matin, le premier jour de la garde à vue, était celui de constater qu'effectivement il y avait des preuves parfaitement opposables, totalement accablante contre Jonathan Daval, et qu'effectivement, j'allais défendre un coupable.
Merci Randall Schwerdorfer d'avoir été ce soir notre invité.
Merci à vous.
Sur RTL, vous l'avocat de Jonathan Daval. Je voulais qu'elle se taise, coécrit avec le journaliste Frédéric Gilbert, est sorti aujourd'hui aux éditions Hugo Doc.
Merci. Au revoir, beaucoup merci
d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. Une pause, et ensuite RTL Soir continue dans les dessous de l'actu. Quartier 2024, Emmanuel Macron annonce des terrains de foot, de basket, des dojos, des piscines mobiles pour la Seine-Saint-Denis et Marseille. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL 18h30.
RTL Soir avec Julien Sellier.
On vous rappelle les grands titres de l'actualité. Marion Calais, c'est à vous.
Un coup de filet dans toute la France cette semaine. 49 personnes arrêtées pour détention d'images pédopornographiques. Parmi elles, un instituteur de l'Hérault qui a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en détention provisoire. Elle joue la carte de la cohérence au lendemain du dépôt officiel des candidatures pour l'investiture des Républicains. Valérie Pécresse fera savoir à l'occasion d'un meeting à Dijon qu'elle va reprendre sa carte chez LR. Et puis, des recherches en cours près d'Aussy-le-Château, dans le Pas-de-Calais, où un grand félin a été aperçu hier soir en liberté. La bête a été vue par une vingtaine de gendarmes après le signalement d'une habitante. Des appels à la prudence ont été émis localement.
Très bien, merci Marion. Bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, pour demain alors.
Globalement du beau temps, ça va concerner les trois quarts du pays. Seul bémol sur l'extrême nord, avec un temps couvert et quelques faibles pluies. Entre le Nord-Bretagne et Strasbourg, également des nuages qui vont descendre jusqu'à l'île de France et ailleurs, du soleil parfois voilé, mais l'impression restera belle. Les températures fraîches le matin, toujours, et de saison en journée, de 15 à 18 au nord, de 19 à 22 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu, RTL se penche sur ce gros chèque, 200 millions d'euros pour booster le sport en France d'ici les JO 2024. Un chèque notamment à destination des quartiers populaires. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
C'est Emmanuel Macron en personne qui a assuré le service après-vente du plan. Ce n'est pas un hasard. Il s'est rendu à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis ce matin. 5000 équipements vont voir le jour sur le territoire. Alors lesquels et où concrètement?
Eh bien ce sont 1000 terrains multisports, 1200 dojo, 500 terrains de basket 3-3, 500 de hand, 500 de paddle, 500 skateparks, mais aussi 200 sites sportifs mobiles, dont des bassins pour apprendre à nager. Ils seront installés en priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville. Deux territoires sont visés plus particulièrement, la Seine-Saint-Denis et Marseille. Pour Emmanuel Macron, l'objectif de ce plan, c'est d'aider les collectivités à financer ces petites structures.
Ce seront au moins 50% des frais qui seront pris en charge, jusqu'à 80% en France hexagonale et jusqu'à 100% en France ultramarine, parce que pour certaines collectivités, sinon, c'est impossible de prendre en charge ces infrastructures et c'était souvent ce qui bloquait.
L'idée, c'est que ça profite à tous les publics.
Effectivement, et cela a été particulièrement bien expliqué par le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, qui a lui aussi grandi dans une cité du 91, dans ses quartiers prioritaires. 40% des rez-de-chaussée des immeubles sont vides et c'est là que seront installés 1000 dojos.
Tu peux faire du judo pour les enfants, de la self-défense pour les femmes le midi. Tu peux t'occuper de nos parents en faisant de la gym douce, des ados en faisant du jujitsu brésilien, qui est un sport à la mode énormément, ou du jujitsu façon MMA plus souple, et du judo plus de compétition. Donc nous, on touche toutes les populations d'une cité.
Les élus des quartiers sont satisfaits?
Bien, mais peut mieux faire. C'est ce qu'a déclaré Régis Juanico, le député de la Loire, estime que ce n'est qu'un plan de rattrapage, qu'il aurait fallu l'initier il y a déjà plusieurs années. En revanche, Stéphane Troussel veut voir le verre à moitié plein. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis trouve que ce plan est le bienvenu pour pallier le déficit en équipement et surtout de bon augure à 3 ans des Jeux de Paris. Cela va permettre un accès au sport à toute la population.
Les dessous de l'actu avec Isabelle Langer ce soir sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
L'heure de recevoir les bons conseils de la bande de LVT pour occuper vos soirées. On parle souvent ciné, on parle souvent télé dans cette chronique, mais ce soir on va parler spectacle, et y compris pour les plus petits avec vous, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez au Théâtre de la Renaissance, c'est à Paris, 10e arrondissement, et donc on y emmène nos enfants ?
Ben oui, parce qu'entre les mercredis après-midi, les week-ends, les vacances de la Toussaint qui arrivent, il faut quand même les occuper, ces petits.
Certes.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas replonger dans ce cas-là toute la famille dans l'univers merveilleux de Pinocchio. Pinocchio, ce petit pantin qui, rappelons-le, est quand même un peu naïf, un peu menteur et désobéissant, qui préfère l'école buissonnière, mais qui va quand même se révéler être courageux et curieux de tout, musique.
Donc c'est Pinocchio en version conte musical, c'est ça ?
Oui. Ce spectacle mêle la musique, la chanson, la danse, les acrobaties, mais aussi bien sûr le théâtre, tout y est. Et c'est vraiment gracieux. Même le nez de Pinocchio s'allonge sous nos yeux grâce à un tour de passe-passe entre deux acteurs. J'ai 36 ans, ça m'a émerveillée, c'est vous dire. Les décors sont beaux, les comédiens sont formidables, avec un vrai coup de cœur pour la fée bleue qui est très 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 marrante. C'est très joli, c'est pour toute la famille, c'est moderne, c'est drôle, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Et c'est donc en ce moment au Théâtre de la Renaissance à Paris, les samedis à 14h, mais il y aura plus de séances pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Renseignez-vous, c'est une bonne occupation d'emmener ses enfants au théâtre.
Effectivement, vivement les vacances. Merci beaucoup, merci Julia, pour ce joli conseil. On se retrouve demain.
Demain.
À nouveau, laissez-vous tenter la dernière sur RTL. Une petite pause et ensuite, on va défaire le monde. Bon, 20 minutes d'actu autrement pour faire plein de connaissances, pour briller au dîner avec la joyeuse bande Cyprien Signy, Laurent Tessier, Arthur Asquin et Céline Landreau. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
On va notamment se poser cette question, mais que se passe-t-il dans la tête de nos footballeurs? Ouais. Tiens, tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.